La toute première fois en fait que j'ai prêché en Turquie, il y a de ça plusieurs années, ça a duré 1h20. Donc je vous la ferai pas. Anne-Laure m'a dit 25 minutes, j'ai mon chronomètre. Donc voilà. Donc ce matin, j'aimerais me tourner avec vous vers un texte en fait qui est vraiment très pertinent par rapport à ce que je viens de partager à la mission en général. Alors c'est quelque chose qui est très présent parmi vous en tant qu'assemblée, la mission. Et ce que j'ai à cœur de faire ce matin en fait, c'est de retourner vers un texte des Écritures en fait qui met vraiment de la manière la plus claire possible la raison pour laquelle Jésus institue la mission de l'Église. La raison pour laquelle Jésus institue la mission de l'Église, donc un passage très bien connu, Matthieu 9, 35, donc je mettrai de côté à cause du temps, la section qui parle de l'appel des 12 disciples, mais un texte très bien connu dans l'évangile de Matthieu. En fait, pour certains, l'évangile de Matthieu est perçu comme un manuel de formation pour disciples en devenir dans le but de l'expansion du règne de Dieu. Donc un petit peu à l'image de l'Ancien Testament, donc Matthieu qui écrit pour des juifs, des croyants d'origine juive, où on trouve 5 grands discours qui ressemblent un petit peu aux 5 livres de la loi, aux 5 livres des psaumes. Et la section particulière, en fait, c'est l'introduction au deuxième discours. Donc là, qui touche vraiment à l'expansion du royaume par l'envoi des disciples, pas seulement à Jérusalem, mais eux qui sont envoyés plus tard vers les nations. Donc, et un texte en fait que j'aimerais considérer par le biais de 4 questions. Alors, 2 questions qui touchent au contenu de notre texte, et 2 questions d'application. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en particulier aujourd'hui? Alors que vous soyez ici franco-français comme moi, d'Albertville, ou en transition au centre missionnaire, ou en préparation pour partir. Je vois 2 personnes là-bas. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Donc voilà, j'aimerais qu'on lise notre texte, et puis après ça, j'aimerais prier un coup encore. Et Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Or, en voyant cette multitude d'hommes et de femmes, il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient harassés et abattus, comme des brebis sans pasteur. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis on continue. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Prions. Seigneur, je prie que tu viennes toucher nos yeux, toucher nos oreilles et toucher nos cœurs, Seigneur Jésus, pour que ce matin, on puisse entendre à nouveau ta voix. Seigneur, recevoir ce que tu veux nous dire pour nous mettre en mouvement à ta suite, Seigneur, dans l'accomplissement des projets du Père, Seigneur. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Donc, 2 questions. En fait, je retourne à mon texte, oui. 2 questions que j'aimerais considérer avec vous ce matin pour essayer de faire sens, en fait, justement, de cette raison essentielle, en fait, pour laquelle Jésus institue la mission de l'Église. Donc, la question, c'est ça, en fait. La question, c'est ça. Les 2 questions, plutôt. D'après ce texte-là qu'on a sous les yeux, qu'est-ce qui pousse Jésus, premièrement, à demander aux disciples de prier pour l'envoi d'ouvriers dans la moisson? Première question. Et deuxièmement, qu'est-ce qui pousse Jésus à envoyer les 12 dans la moisson sur ce texte-là? Bien sûr, j'attends vos réponses. Mais bon, en sachant qu'il n'y a qu'une seule réponse à ces 2 questions. Est-ce qu'il y a des volontaires? Sur la base de ce texte, quelle est la raison pour laquelle Jésus appelle à prier et envoie dans la moisson?
Ému de compassion.
Il est ému de compassion.
Quelqu'un d'autre? Et le salut.
D'accord, mais sur la base de ce texte-là, la motivation,
essentielle du cœur de Jésus, elle est présente.
Alors oui, d'accord. Peu d'ouvriers. Mais là derrière, qu'est-ce qui pousse Jésus à voir qu'il y a en fait peu d'ouvriers? D'accord. Et qu'est-ce qui fait que dans le cœur de Jésus, il se soucie des brebis qui sont harassées et abattues? Encore? D'accord. Ému de compassion, amour. Quelqu'un d'autre?
Il n'y a pas de berger, et lui, il est le berger.
D'accord. Ouais. Sur la base de ce texte-là, c'est ça en fait. Jésus réalise en fait alors l'état des brebis. L'état de brebis est le fait qu'il représente seulement un très grand nombre et qu'il est tout seul lui-même dans ce contexte-là. Et là derrière, ce qu'on voit en fait, c'est qu'en tant que berger, Jésus, le berger d'Israël, qui considère l'état de ses brebis, il est ému de compassion. Est-ce que vous savez comment c'est traduit dans les autres traductions? Regardez ça. D'autres traductions en français que j'ai consultées, Jésus ému de compassion, ça c'est dans la traduction crampon, Jésus remué jusqu'aux entrailles, bouleversé par les foules dans la Nouvelle Français Courant, saisi ou rempli de compassion, pris de pitié, pris aux entrailles, pris de miséricorde. Le mot pour entrailles, en fait, c'est le mot qui parle de l'utérus. D'accord ? Vous rappelez du passage d'Isaïe qui parle de la tendresse du Seigneur envers son peuple. Comme si une mère même oubliait son enfant, le Seigneur ne vous oubliera pas. D'accord ? Ça, les amis, c'est la réalité de ce qui bouge Jésus à se soucier, en fait, de ces foules qui sont harassées et abattues. Et c'est la raison pour laquelle il appelle à prier, pour qu'il y ait plus de personnes qui se joignent à lui, et qu'il envoie ensuite. Pourquoi? Parce que les brebis, ce n'est pas seulement les brebis d'Israël. Les brebis d'Israël, en fait, c'est un troupeau qui inclut aussi les nations. Les amis, et ce matin, si on est ici, c'est à cause... On est au bénéfice de ça, nous, aujourd'hui. On n'est pas juifs. On est les païens. Vous voyez? Et c'est ça, le truc. Là, derrière, ce qui pousse Jésus à appeler ses disciples à prier pour la mission, ce qui pousse Jésus à envoyer les disciples vers la mission, c'est la compassion. La compassion. Regardez bien, les gars. Ce passage de Matthieu 9, il fait écho à un passage d'Ézéchiel 34, qui est très présent, d'ailleurs, chez les prophètes, par rapport aux compassions de l'Éternel envers un peuple captif et en exil. Alors qu'il soit en Égypte, oui, mais au-delà qu'il soit à Babylone. Et en fin de compte, cette situation, c'est la situation de l'humanité en entier qui se trouve où ? Hors du jardin ! Genèse 3, le fruit de la chute, les amis, c'est d'être harassé et abattu. Harassé et abattu. Si vous ne connaissez pas ça, les gars, vous n'êtes pas humains. Et vous connaissez que ça veut dire. En Ézéchiel 34, le Seigneur parle des brebis comme celles qui sont, comme celles qui sont perdues, égarées, blessées et malades. Et quand le Seigneur voit ça, le Seigneur dit, je me soucierai de mes brebis. Pour les guérir, pour les retrouver et pour les amener toutes dans un lieu de paix et de bénédiction. De retour dans la présence du Père, de retour au temple qui devient une maison de prière pour toutes les nations où le Seigneur les réjouira. Ça parle de qui ça? Ça parle du Tchétchène, ça parle de la jeune fille afghane, ça parle des Mauritaniens, ça parle du Togo, ça parle de où que ce soit, ça parle des Maghrébins que David côtoie ici. Vous savez, les amis, où le Seigneur les voit harassés et abattus, qui les voit perdus, égarés, malades et blessés, et que le Seigneur voit avec un regard de compassion. Écoutez bien, les amis, vous savez ce que c'est que l'opposé de la dynamique du cœur de Dieu pour ces nations? Vous savez chez qui on la retrouve? Un prophète en plus de ça. C'est qui? Jonas. Jonas, vous vous rappelez Jonas chapitre 4 ? 4, verset 2. Alors qu'il vient de vivre lui-même la réalité de la compassion de Dieu, qu'il a repêché du ventre de la baleine et qu'il le réenvoie, recommissionne vers Ninive. Chapitre 4, verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? Jonas, il dit, c'est parce que je savais que tu es compatissant et miséricordieux, lent à la colère, que je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. Et le Seigneur qui dit, quoi ? Toi, tu te soucies de ce plandrissin, et moi, ces 120 000 qui sont là, qui connaissent pas leur droite de leur gauche, ne devraient pas m'en soucier. Vous comprenez, les gars ? Il y a deux dynamiques possibles. Il y a deux dynamiques possibles en ce qui concerne la mission. En ce qui concerne le regard sur le monde, c'est la dynamique de l'esprit de Jésus ou la dynamique de l'esprit de Jonas. L'esprit de Jonas, on le retrouve où ? Chez Jacques et Jean. Luc 19. Jésus passe par la Samarie. Jésus passe par la Samarie et puis il est malheureusement accueilli. Bon, ça craint un petit peu. Vous rappelez l'attitude de Jacques et Jean ? Trembler sur place. Voilà, c'est ça. Seigneur, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu des cieux ? Allez ! Allez ! Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Vous ne savez pas de quel esprit vous parlez. Vous ne savez pas de quel esprit vous parlez. Vous savez, c'est ça le truc. Jésus, pourtant les douze étaient partis. Jacques et Jean faisaient partie des douze. Mais à ce moment-là, la réalité de la compassion de Dieu, incarnée par Jésus, alors ça leur passe au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. D'accord ? Et la question, c'est ça, là, derrière. La question, c'est ça, c'est que la motivation essentielle de la part de Jésus pour la mission, c'est vraiment ça, en fait. Ce cœur, les compassions de l'Éternel incarnées dans la personne de Jésus, qui est le berger d'Israël, qui vient à la recherche des brebis perdues. Les brebis perdues, c'est qui ? C'est nous. Les brebis perdues, c'est nous, les gars. Je parlais avec un ami iranien, pas très longtemps, que je traduisais à l'église, un pasteur, qui disait que notre plus grand danger, en ce qui concerne la vérité, c'est pas de sombrer dans l'hérésie, c'est de devenir trop à l'aise, en fait, avec la vérité. Ou, c'est tellement familier que, bon, ça veut plus dire grand-chose. Et ou à la place d'être parmi les pauvres qui sont au bénéfice de l'évangile et du ministère de Jésus, on se range, en fait, inconsciemment parmi les leaders religieux. Ouh, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça. D'accord ? Donc, deux questions de plus que j'aimerais poser par rapport à ce texte. Sachant que Jésus institue la mission, appelle à prier et envoie sur la base des compassions de l'Éternel qui fait qu'il regarde sur un monde en lambeaux déchiquetés avec les entrailles d'une mère pour son enfant. La question maintenant que je voudrais vous poser, que je voudrais me poser à moi également, parce que je fais partie du lot, c'est qu'est-ce qui nous pousse ? Qu'est-ce qui nous pousse nous-mêmes ? Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui nous-mêmes à prier pour la mission ? Qu'est-ce qui nous motive nous-mêmes à envoyer en mission ? Et j'en rajouterai même deux. Qu'est-ce qui nous pousse nous-mêmes à partir en mission ? Qu'est-ce qui nous pousse nous-mêmes à soutenir la mission ? Est-ce qu'on est motivé par ce qui motive Jésus à établir toutes ces choses dès le départ ? Vous comprenez ce que je veux dire ?
Écoutez ça, parce que la question c'est ça.
La question, et là je parlerai d'une manière très honnête. Très honnête,
je me rappelle très très bien qu'on était à l'Institut théologique aux États-Unis. Il y avait des soirées missionnaires pour prier pour la mission. J'y allais, vous savez pourquoi j'y allais ?
Parce qu'il y avait la pizza.
Oh les gars, s'il y a de la pizza, j'ai prié pour les missionnaires. J'ai prié pour les missionnaires, d'accord ? Prier hors d'un sens de culpabilité, j'ai fait ça. Prier hors d'un désir de paraître spirituel, oh les gars, les jeudis soirs à l'église, oh purée, je l'ai fait, oh absolument. Je l'ai fait absolument. Vous savez, les gars, je me rappelle très, très bien. Alors, pour parler d'une autre situation, où je me retrouve également, on était à la fac de théologie, en chapelle un jour. Et je me rappelle, il y a un gars qui se préparait à partir dans le sud-est asiatique, qui s'est levé, c'était un silence de pierre, et qui s'est repenti devant Dieu parce qu'il voulait être, en fait, un missionnaire de haut calibre. A high caliber missionary. Et il s'est repenti de ça.
Il s'est repenti du ça, pourquoi ? Parce qu'il a réalisé que sa motivation profonde, en fait, elle était en décalage avec celle du Seigneur. Elle était en décalage. Je suis parti en Turquie de manière très inconsciente, mais avec le but de devenir le sauveteur des Turcs, en fait. Et ça a fini catastrophiquement. Pourquoi ? Parce que j'étais pas vraiment mu par la compassion de Dieu pour eux, qui est premièrement la compassion de Dieu pour moi. Or, de ça découle la compassion pour les autres. Et donc, c'est ça la question que je vous posais. Envoyer en mission, c'est génial, bien sûr, bien sûr. On veut le faire pour les bonnes raisons. Mais une deuxième question, en fait, qui concerne notre contexte de Strasbourg, envoyer où ? Envoyer où ? Vous savez, c'est frappant parce que je trouve que les églises strasbourgeoises sont vraiment, semblent très prises, justement, par le besoin d'envoyer des missionnaires, par le besoin de soutenir des missionnaires. Par contre, pour une raison que j'ignore, pour le moment, c'est que la mission à Strasbourg qui se trouve sur le palier de nos églises, je la vois pas. Je la vois pas. Pourquoi ? Faubourg national à Strasbourg, tu as deux cafés somaliens côte à côte, tu as plusieurs épiceries afghanes côte à côte, c'est des endroits qui sont... Va en Somalie aujourd'hui en tant que français ou autre, tu vas voir ce qui se passe. D'accord ? Ils sont là présents. Comment ça c'est pour une raison que ça importerait plus quand ils sont là-bas que ça importerait quand ils sont ici ? J'en parlais avec David il y a avant-hier. D'accord ? Les amis, c'est la question. Quand on se soucie de l'extérieur, mais qu'on est aveugle au... Là, ici, il faut qu'on laisse le Seigneur sonder, en fait, nos motivations. Seigneur, est-ce que mon cœur, il fonctionne en synchro avec le tien ou pas ? Qu'est-ce qui me motive, là, derrière ? Qu'est-ce qui me motive ? Ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Et donc, la dernière chose avec laquelle... Purée, je suis à l'heure, je me frappe... Alors, je... Ça, c'est le miracle, en vérité, dis donc. Purée, merci Seigneur. La deuxième, la chose, en fait, que j'aimerais partager avec vous, justement, c'est ça, c'est si c'est les entrailles de compassion de Jésus qui le poussent à instituer la mission de l'Église, si nous, on veut être mus en tant que disciples de Jésus, de prier et d'envoyer sur la base de cette compassion, dont on doit être au bénéfice en premier. La dernière chose, c'est comment est-ce qu'on croit dans cette compassion ? Comment est-ce qu'on grandit ? Comment est-ce que cette compassion de Dieu vient s'enraciner plus profondément en nous ? C'est ça la question qui est importante. C'est ça la question qui est importante. Et, alors, je reviens à mon truc parce que... Regardez les gars. Je me rappelle très très bien, j'étais à l'école... Et je suis tombé sur cette citation un jour qui est attribuée soit à Spurgeon, soit à je ne sais pas trop qui parle de l'évangélisation. Et ça m'a touché très profondément. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui nous est très à cœur. Mais je réalisais aussi que mon désir, en fait, d'évangéliser, c'était en fait d'être un héros ou un martyr ou un truc dans ce genre. Ah oui, oh, Catherine, je te le dirais... En détail, c'est vrai. Mais la réalité, c'est ça, que l'évangélisation, c'est vraiment un mendiant qui dit à un autre mendiant, où trouver. Qu'est-ce que ça veut dire là derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, je suis sûr que vous avez tous entendu, ou peut-être même dit vous-même, à un moment ou à un autre, moi, j'ai pas trop envie qu'on me fasse la charité. J'ai pas trop envie qu'on me fasse la charité. Pourquoi ? Parce que ma dignité, elle en prend un coup. Le problème, c'est que Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et le problème, c'est que Jésus, en citant Ésaïe 61, quand il établit son ministère en Luc 4, il parle de lui-même comme celui qui a été oint d'Esprit Saint pour annoncer à qui la bonne nouvelle ? Aux pauvres, aux malheureux, les aveugles, ceux qui sont en prison, ceux qui ont le cœur brisé, ceux à qui le Seigneur veut donner l'huile de la joie à la place de la cendre. Maintenant, la chose, les amis, c'est ça, c'est est-ce que, quand on pense à nous-mêmes là-derrière, est-ce qu'on se compte parmi ces pauvres ? Est-ce qu'on se compte parmi ces malheureux ? Est-ce qu'on se compte parmi ceux qui sont aveugles, ceux qui sont en prison, ceux qui ont besoin d'être libérés ? Vous savez pourquoi, les amis ? Parce que la plénitude de cette libération, elle attend le retour de Jésus. Elle n'est pas finie le jour où vous avez été baptisés, les gars, vous le savez. Non, c'est un processus qui prend place dans le temps. de gloire en gloire, où Jésus, à qui on a été joint, avec lequel on meurt par crucifixion, enterré, ressuscité, pour refléter de plus en plus qui il est dans le sens de l'incarnation de l'Évangile. Incarner l'amour de Dieu, incarner l'amour du Père. Mais si on connaît que très peu cet amour de Dieu, cet amour du Père pour moi-même, pour nous-mêmes, on peut prêcher, oui, mais on ne prêche pas. On ne prêche pas. Vous comprenez ?
On peut prêcher de la théologie.
On peut prêcher de la théologie. Bien sûr, écrire des papiers, écrire des ceci, de cela. Mais la question c'est, est-ce que nos vies incarnent l'amour de Dieu révélé par le Fils d'Adam auquel on a été joint ? Vous voyez, c'est ça la question.
C'est ça la question. Donc, est-ce qu'on se voit nous-mêmes ? Est-ce qu'on fait réellement partie de ceux qui sont au bénéfice du ministère de Jésus ? Ça veut dire, est-ce que, Seigneur, je suis réellement malheureux ?
Dans le sens que, vous comprenez le truc, on vit dans une tension. Oui, le Seigneur nous a sauvés, on est en cours de salut, jusqu'à ce qu'on soit sauvés en plénitude quand le Seigneur revient. Mais en attendant, est-ce qu'on a conscience, nous-mêmes, aujourd'hui, de notre besoin de la compassion de Dieu ? Est-ce que j'ai conscience aujourd'hui de mon besoin de la compassion ? Est-ce que j'ai conscience aujourd'hui, Marc 2, 17, d'être en fait ce malade qui est toujours, jusqu'à ce que je voie Jésus face à face, qui doit être au bénéfice de la grâce de Dieu et de l'Évangile ? Jésus doit poser ses mains sur moi. Il doit ôter les poutres hors de mes yeux et guérir ma vue pour que je voie les hommes comme il le voit lui. Vous savez, c'est seulement quand on a des poutres dans les yeux, en fait, qu'on devient aveugle à la situation des autres. Et Jésus a besoin, de la même manière quand il va voir l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je recouvre ma vue ?»
D'accord ? Donc, la situation, c'est ça. Ça veut dire, en fin de compte, d'une manière très pratique, de choisir de nous placer parmi les pauvres des évangiles. Le lépreux, la prostituée, le démonisé, le paralytique, le collecteur d'impôts, etc., etc. Ceux-là sont nos frères. Vous rappelez du lépreux ? Oh là 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 là.
Vous avez, enfin j'imagine, vous auriez tous vu la série Le Chosen. Cet épisode particulier où le lépreux, où Jésus, il y a un lépreux qui arrive, que Jésus vient rencontrer et qui guérit.
Vous savez les amis, ça doit devenir notre expérience d'un degré de gloire à un autre. D'accord ? Parce qu'on sera guéri de la lèpre seulement quand on voit Jésus face à face.
Mais en ce moment, aujourd'hui, est-ce que je sais que j'ai encore de la lèpre dans ma vie qui est besoin d'être ? Ça veut dire, est-ce que je sais que j'ai besoin d'être au bénéfice de la compassion du Seigneur ? Aujourd'hui !
Et pas seulement parce que c'est dimanche qu'on a à l'église. Demandez à votre femme si vous êtes mariée.
Hein, ma poulette ? Est-ce que j'ai besoin de la compassion du Seigneur ?
Oh là 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 ! Demandez à mes enfants. Vous comprenez les gars ? Donc c'est ça. La situation là derrière, c'est choisir de dire, ça veut dire de perdre ma dignité en fin de compte.
Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus a perdu sa dignité pour moi. Jésus a perdu sa dignité pour moi, pour que je puisse perdre ma dignité et la retrouver en lui-même. Vous comprenez ?
Ça veut dire arrêter de jouer au théâtre en fin de compte. C'est vrai. Donc, j'aimerais clore avec ça, alors pensant
à l'envoi. Vous avez beaucoup de familles parmi vous qui sont en cours de préparation, soit au centre, en cours de préparation bientôt pour Étienne et Myriam, et vous qui êtes derrière, qui tenez les cordes, j'aimerais partager avec vous une interprétation de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, qu'on avait lu, qui nous avait été donné en préparation missionnaire aux États-Unis, qui m'avait explosé. Oh, c'était terrible. Mais pourquoi ? Parce que c'est pareil, ça montrait des choses par rapport à mes motivations profondes qui m'ont pas juste fait peur, mais qui m'ont dit « Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon aide. » Que j'aimerais vous lire. Donc, une interprétation de 1 Corinthiens 13 qui est particulière aux missionnaires, qui dit la chose suivante. Si je maîtrise les langues avec une perfection absolue, si je parle comme un natif mais qu'il me manque cet amour qui saisit les cœurs, je ne suis rien. Si je suis pourvu de distinctions et de diplômes, si je suis au fait des méthodes les plus récentes, mais qu'il me manque cet amour plein de prévenance, je ne suis rien. Si je sais vaincre mes adversaires en débat jusqu'à les confondre, mais que je n'ai pas cette parole qui touche le cœur et l'attire, je ne suis rien. Si j'ai toute la foi, si je nourris de grands idéaux comme moi, de vastes projets et des visions splendides, mais que je n'ai pas cet amour qui sue, qui saigne, qui pleure, qui prie et qui supplie, je ne suis rien. Si je peux guérir toute maladie et toute infirmité, mais que j'ai le pouvoir de blesser les cœurs et d'heurter les âmes par défaut d'un amour plein de bonté, je ne suis rien. Si j'écris des livres et publie des articles qui émerveillent le monde, mais que je ne sache pas transcrire la parole de la croix dans le langage de l'amour, je ne suis rien. Et plus encore, je peux être compétent, actif, minutieux, méticuleux, richement équipé, et pourtant, comme l'église de Laodicée, devenir pour Christ un objet de dégoût. Et si j'abandonne tous mes projets, si je quitte ma maison, mes amis et mes conforts, si je me livre au sacrifice éclatant d'une vie missionnaire, mais que je devienne amer et replié, au cœur des contrariétés quotidiennes et des offenses personnelles, et quand bien même je livrerai mon corps pour être consumé dans la chaleur, la sueur et la poussière de l'Inde, si je n'ai pas cet amour qui renonce à ses droits, à ses loisirs désirés, à ces projets chéris, je ne suis rien, absolument rien. Mais bon, ce n'est pas la fin de l'histoire. Gloire à Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. D'accord ? La seule chose qu'on a à faire, c'est Seigneur, aie pitié. Seigneur, je confesse ma misère. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, donne-moi un cœur de chair à la place d'un cœur de... Seigneur Jésus, viens à ma rencontre. Et j'aimerais clore par la prière, justement, parce que je suis 2 minutes au-dessus. Je m'excuse. Merci pour votre patience. Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu vois tout de nous. Il n'y a pas une partie de nos vies, Seigneur, qui t'est inconnue. Et il n'y a pas une partie de nos vies, Seigneur, que tu regardes avec dégoût. Il n'y a pas une partie de nos vies, Seigneur, que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas toucher. Et Seigneur, on s'ouvre à toi ce matin, Seigneur, en priant comme le lépreux, Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, j'ai à cœur ce matin en particulier de prier et de prier ensemble, Seigneur, pour renoncer à l'esprit du racisme, Seigneur. Renoncer à l'esprit du racisme, Seigneur, et nous écarter par crainte, peut-être, hors de la tentation d'une foi identitaire, à la lumière de l'islam qui est présent, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de croître dans la connaissance de ton amour paternel uni à Jésus. Tu es le Fils, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, Seigneur, pour qu'on puisse, pour eux, incarner les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, Seigneur. Seigneur Jésus, viens toucher nos yeux ce matin, viens à notre rencontre. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Amen.